chanson d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous. Le ton continue de monter entre Britanniques et Russes. Les Britanniques accusent le Kremlin d'être derrière l'empoisonnement de l'ex-espion Sergueï Skripal et de sa fille, alors qu'hier, l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques a bien confirmé l'utilisation d'un agent neurotoxique. Depuis le début de cette affaire, Twitter est le vecteur privilégié des commentaires sarcastiques de l'ambassade russe. Et c'est Marie Billon qui nous appelle de Londres.
Un thermomètre affichant une température en dessous de zéro posée sur de la glace, c'est le photomontage que l'ambassade de Russie a posté sur son compte Twitter le 14 mars dernier en précisant « La température des relations russo-britanniques est descendue à moins 23, mais nous n'avons pas peur du froid ». Depuis le 4 mars, l'ambassade multiplie les messages pseudo-humoristiques sur les réseaux sociaux. Quand lors d'une conférence de presse, un journaliste demande à l'ambassadeur Alexander Yakovenko si toute cette histoire le fait rire, il répond en substance qu'il est quelqu'un de très sérieux, en somme qu'il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Sauf qu'entre deux tweets du même acabit, l'ambassade en poste d'autres plus sérieux. Le 12 avril, elle publie une photo d'identité sans visage au milieu, juste une ombre. Aucune image de Sergueï et Yulia datant d'après le 4 mars dernier n'a émergé. Ce manque de transparence a une raison, peut-on lire. Une manière plus voilée que d'habitude d'accuser Londres d'être à l'origine d'un complot qui vise à provoquer la Russie. Ces tweets ne sont généralement pas adressés à quelqu'un en particulier, sauf éventuellement à Boris Johnson, le ministre des Affaires étrangères qui avait tweeté que le laboratoire militaire britannique de Portendown lui avait confirmé que l'agent énervant était bien d'origine russe avant d'effacer ce tweet. Les scientifiques ayant précisé qu'ils ne pouvaient pas identifier l'origine de l'agent. En fait, les Britanniques ne répondent généralement pas aux provocations numériques de l'ambassade russe, préférant les communiqués officiels. Mais lorsque la Russie a voulu prendre le public à témoin sur les réseaux sociaux, le ministère des Affaires étrangères a tenté de lancer un contre-feu. Le 12 avril, il a voulu expliquer la situation en faisant défiler, sur fond musical, les raisons pour lesquelles Londres accusait Moscou de l'attaque de Salisbury. On peut y lire aussi, même si le Kremlin est constamment en train d'embrouiller le public, les faits restent les mêmes. Les médias britanniques parlent d'une guerre de l'information, l'État russe d'un flux de désinformation.
Avec l'été qui se profile tout doucement, l'idyllique île de Krk en Croatie se prépare à accueillir les très nombreux touristes venus de l'Europe de l'Ouest. Mais une ombre plane désormais sur cette activité essentielle à l'économie de l'île. C'est la construction prochaine d'un terminal offshore de gaz naturel liquéfié et qui pourrait bien mettre en danger les eaux de la baie du Kvarner. Depuis, les habitants se mobilisent. Reportage Laurent Gélin.
La saison touristique n'a pas encore commencé sur l'île de Krk au nord de l'Adriatique. Les silhouettes des porte-conteneurs en route pour le port de Rijeka se découpent sur le fond du golfe du Kvarner, projetant leurs ombres immenses sur les frêles embarcations des pêcheurs. Dragan Lesica regarde la mer de la fenêtre du restaurant familial installé dans le village de Nivice.
Mon arrière-grand-mère a commencé en 1934 dans cette même maison. Ensuite, cela a été mes grands-parents, puis mes parents. Et depuis 20 ans, c'est moi qui gère le restaurant. Nous travaillons avec des pêcheurs et des agriculteurs locaux. Nous essayons au maximum d'avoir des produits de l'île. 90% des poissons sont pêchés dans cette région.
Dans quelques semaines, les premiers contingents de retraités allemands devraient commencer à coloniser les hôtels de Krk. Au cœur de l'été, les touristes font passer la population de l'île de 19 000 à plus de 190 000 habitants. Mais cette année, l'inquiétude est palpable. Le gouvernement croate veut installer un terminal offshore de gaz naturel liquéfié à quelques kilomètres du restaurant de Dragan.
Nous avons très peur, nous ne savons pas quelle influence nous pouvons avoir. Moi et mes collègues restaurateurs, plus généralement tous les gens de l'île, notamment ceux qui vivent de la mer, nous sommes très inquiets des conséquences du terminal.
En 2015 avait été actée la construction d'un terminal terrestre. Un projet que les habitants de Krk avaient accepté, l'impact environnemental de l'usine semblant limité. jusqu'à ce que le gouvernement décide finalement de privilégier un terminal offshore moins coûteux, une barge de 300 mètres de long ancrée au flanc de l'île, pouvant traiter 2,5 milliards de mètres cubes de gaz par an, mais utilisant de l'eau de mer et du chlore pour la regazéification. Un procédé très polluant pour les eaux du Golfe, comme l'explique Milvana Arkopievats, biologiste au musée d'histoire naturelle de Rijeka.
Quand il y a du chlore dans l'eau, c'est très dangereux. Le chlore peut réagir avec d'autres substances présentes en mer et former de l'oxyde de chlore toxique. Cela peut arriver quand le chlore entre en réaction avec des déchets organiques. Cela forme des substances très toxiques et potentiellement cancérigènes.
Une pollution inadmissible pour les habitants et les élus de l'île. Mirela Ahmetovic est la maire de la petite commune d'Omichai.
Nous sommes toujours d'accord pour la construction d'un terminal, mais à condition qu'il respecte la loi de la République de Croatie et l'opinion des citoyens d'Omichai. Nous avons deux problèmes, la technologie utilisée et le site retenu qui ne figure dans aucun document officiel, ni dans l'étude du projet, ni dans le plan d'urbanisme de la commune, ni dans l'étude environnementale.
Pour faire face à l'opposition des insulaires qui ont manifesté à Rijeka le 3 mars dernier, le Premier ministre Andrei Plenković envisage de faire voter une lex specialis permettant de lancer rapidement les travaux. Selon Vjeran Piršić, membre de l'association écologiste Eko Kvarner, le gouvernement veut aller vite pour ne pas froisser ses puissants alliés.
Il y a une forte influence des États-Unis. Monsieur Trump a demandé à la présidente croate « Hey, quand allez-vous construire le terminal sur l'île de Kirk ?» Donc ils veulent certainement vendre du gaz de schiste ici.
Le terminal offshore devrait coûter la bagatelle de 383 millions d'euros, financé à un tiers par l'Union européenne. Bruxelles souhaite briser la dépendance de l'Europe centrale au gaz russe, et quelle que soit la pollution engendrée, la vie des habitants de Kirk risque de ne pas peser bien lourd dans la balance. Mirela Ahmetovic.
Nous nous sommes adressés à plusieurs reprises au gouvernement et nous n'avons obtenu aucune réponse. Je ne peux pas croire qu'un État démocratique, que l'Union européenne que nous avons récemment rejoint, soutienne un projet qui viole les lois, qui ne tienne pas compte de la volonté des habitants. C'est pourquoi je ne peux pas croire que l'Union européenne va financer un tel projet.
Dans les cafés de l'île, tout le monde l'assure, si le gouvernement croate ne fait pas marche arrière, les insulaires pourraient se décider à bloquer le pont qui mène au continent et à faire le maximum de bruit pour que la mobilisation s'étende en Croatie et pourquoi pas au reste de l'Europe.
Bonjour Corentin Pénarguer.
Bonjour Catherine.
Alors, cette semaine, c'est avec vous que nous allons détailler les articles que Courrier International a sélectionnés dans la presse européenne. Et on commence par ce titre, Géant du net, la fête est finie. C'est donc un dossier consacré à la période de turbulence traversée par Facebook, les GAFA en général. Alors, qu'est-ce qui se passe chez les géants d'Internet en ce moment, Corentin ?
Eh ben, on a pu assister à une scène assez exceptionnelle mardi. Le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, il a mis un costume cravate et il a dû lui-même venir s'excuser devant le Congrès américain. Alors, la raison, c'est la fuite des données privées de 87 millions d'utilisateurs de son réseau social qui a été exploité par la firme Cambridge Analytica pour faire gagner Donald Trump à la présidentielle. Alors, dans la foulée de Facebook, aujourd'hui, ce sont tous les géants du web, Google, Amazon, Apple, qui sont montrés du doigt en ce moment. Et comme le dit un article de magazine The Atlantic que nous publions cette semaine, il est urgent de remédier au manque de règles sur Internet, qui est devenu un espèce de Far West où nos données personnelles ne sont absolument pas protégées. Alors, ce qui est en jeu d'après le journal américain, c'est tout simplement la survie de notre vie privée et de la démocratie. Alors, pour réguler les GAFA, la presse américaine, en ce moment, elle regarde du côté de l'Europe. En effet, le 25 mai, l'Union européenne va faire entrer en vigueur un règlement général sur la protection des données. C'est un ensemble de lois qui va contraindre les entreprises du numérique à dire clairement ce qu'elles font de nos données. Et ces lois, elles vont donner aux citoyens européens le droit de demander leur effacement. The Atlantic rappelle à créer aux États-Unis une agence de protection des données numériques, un petit peu sur le modèle de ce qui existe déjà là-bas pour l'environnement.
Autre sujet d'actualité brûlante, Corentin, c'est le nouveau succès de Viktor Orban en Hongrie.
Et oui, le Premier ministre hongrois a largement remporté un troisième mandat consécutif lors des législatives de dimanche. Son parti, qui avait basé sa campagne sur un programme anti-immigration et sur la dénonciation d'un prétendu complot du milliardaire Soros en Hongrie, a raflé pas loin de 50% des voix. Alors c'est encore mieux qu'en 2014 lors des dernières élections, et ça montre bien l'état déplorable de l'opposition hongroise qui a été incapable de s'organiser pour résister, comme l'écrit le journal social-démocrate Népszava. Alors, un autre cheval de bataille de Orban et de ses partisans, c'est le rejet de l'Union européenne. C'est ce qui fait dire au site d'information hongrois napi.hu que l'UE a désormais en son sein un pays qui a ouvertement abandonné toutes ses valeurs, mais qui continue d'empocher l'argent de Bruxelles. Et le site hongrois, eh bien, il prédit qu'au lieu de sanctionner la Hongrie, l'Europe va simplement continuer de jouer la prudence avec Budapest et son maître Viktor Orban.
Alors, en Pologne aussi, hein, on a affaire à un gouvernement ultra-conservateur, mais certains Polonais, Corentin, choisissent d'en rire.
Et oui, il vaut peut-être mieux ça, hein, parce que à défaut de réussir à s'opposer politiquement au parti Droit et Justice et à sa dérive autoritaire, eh bien, les Polonais, ils se ruent sur les émissions satiriques qui se moquent du gouvernement. C'est simple, hein, on n'en a jamais eu autant à la télévision polonaise et elles n'ont jamais connu un tel succès. Alors, une émission en particulier fait beaucoup parler la presse polonaise, c'est Ucho Prezedza, qu'on peut traduire littéralement par l'oreille du président et qui tourne en dérision un président omnipotent qui tirerait toutes les ficelles du pouvoir en coulisses, un peu comme le fait Jarosław Kaczynski dans la réalité. Alors le site d'information Virtualna Polska, il écrit même que souvent la fiction dépasse la réalité dans cette série qui suit de très très près l'actualité. Par exemple, ces derniers jours, un épisode montrait le ministre de la Défense fictif avec un uniforme très reconnaissable, très particulier. Et quelques jours plus tard, eh bien, c'est le vrai ministre de la Défense polonais qui portait un uniforme semblable.
Voilà, hein, tous ces articles à lire dans les pages de Courrier International cette semaine et évidemment sur le site de l'Hebdo. Merci Corentin Pénargar.
Merci pour tout Catherine.
Cheveux longs, moustaches, bijoux clinquants et costumes baroques, le chanteur turc Baros Manço a marqué les esprits tant par son look, ses chansons, que par ses émissions de télévision. L'an prochain, cela fera 20 ans que cette icône du rock anatolien a disparu et ses fans sont toujours aussi nombreux à Istanbul, à Nandlauer.
C'est un visage de longs cheveux, de longues moustaches et surtout une voix que les Turcs n'ont pas oubliée. Baros Manço est mort il y a presque 20 ans, mais en 30 ans de carrière, il est devenu et reste l'un des chanteurs les plus aimés des Turcs, y compris les plus jeunes. Sur la rive asiatique d'Istanbul, sa maison du quartier de Moda, transformée en musée, attire toujours les visiteurs. Un petit jardin les accueille, où poussent des statues géantes en forme de tomates, poivrons et aubergines, en référence à la chanson que l'on entend ici, l'une des plus célèbres du chanteur, dont le titre fait honneur à ses trois légumes du soleil. C'est un contrat avec Henri Salvador qui débute la carrière musicale de Baros Manço. La sortie de son 45 tours, Dağlar Dağlar, en 1970, marque un tournant. Plus de 700 000 exemplaires sont écoulés en 5 mois. Baros Manço entre alors dans la cour des grands de la musique turque et rejoint le club des rockers moustachus célèbres aux côtés de Frank Zappa ou Lemmy Kilmister. À cette différence que Baros Manço, lui, mêle volute électrique du rock psychédélique à la tradition orientale. Baros Manço était polyglotte, francophone notamment, diplômé du lycée Galatasaray d'Istanbul et de l'Académie royale des Beaux-Arts de Liège. Beaucoup de ses 200 chansons ont d'ailleurs été traduites dans d'innombrables langues, de l'arabe au japonais. Mais ce qui fait l'attachement des Turcs à ce chanteur exubérant qui s'affublait de gros bijoux et de costumes étranges, ce sont aussi les émissions qu'il a présentées pendant des années sur le petit écran. Dans l'une des plus célèbres, Baros Manço, tel un Jacques Martin turc, les cheveux longs et les cravates loufoques en plus, accueillait des enfants venus présenter l'étendue de leur talent sur scène. Ce chanteur, dont la carrière coïncide avec des décennies très dures pour la Turquie, jalonnée de coups d'État et de violences entre militants de gauche et de droite, avait surtout le don de fédérer non seulement les générations, mais aussi les classes sociales et les opinions politiques. Comme son prénom, Baros, qui signifie « paix », et dont la légende raconte qu'il a été le premier à le porter en Turquie.
Le portrait signé Anandlauer. Just try it. Play the record over again right now. Vous avez deviné, on parle encore musique. Bonjour Vincent Théval.
Bonjour Catherine.
Et on termine donc cette semaine avec un joyeux mélange des influences.
Le Barcelona Gypsy Balkan Orchestra s'est formé en 2012 à Barcelone autour de la chanteuse catalane Sandra Sangia, avec des musiciens italiens, serbes, français, grecs ou encore ukrainiens, et le projet d'un grand voyage musical en Europe centrale et orientale à la recherche des différentes variantes de la musique klezmer. D'ailleurs, le groupe s'est d'abord appelé dans un premier temps Barcelona Gypsy Klezmer Orchestra, avant de légèrement changer son nom au départ de son premier clarinettiste, mais les intentions restent aujourd'hui les mêmes, avec une vision généreuse des musiques des Balkans, irriguée par les traditions séfarades, ashkénazes, gitanes ou arabes, et histoire d'enfoncer le clou d'un multiculturalisme généreux, le nouvel album du Barcelona Gypsy Balkan Orchestra s'intitule « Avo Canto », ce qui veut dire « chanson de nos grands-parents en espéranto ».
Nekapate, trakostile, meletuate, trakostile, meletuate, shareiman, shishareiman. Petierpate, nekapate, trakostile, meletuate, trakostile, meletuate, shareiman, shishareiman.
Barcelona Gypsy Balkan Orchestra avec ses notes orientales, Shahreiman. Merci de nous avoir suivis toute cette semaine à la réalisation Françoise Grelot. Vous pouvez retrouver Accent d'Europe sur RFI.fr et sur notre page Facebook, bien sûr.